Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Le cadre d'un témoignage est un exercice périlleux, mettant en avant son ego et étant porteur de risques d'orgueil. Il s'agit ici d'une synthèse d'une vie de travail. Et dans un format forcément réduit, ce n'est pas une autobiographie. Et du coup, tout paraît simple et peut-être positif, mais cette vie est comme toutes les vies, je dirais, ponctuée d'échecs, de faux pas, d'erreurs et même de chutes. Peut-être une présentation, parce que ce sera quelque chose qui m'a marqué à moi en tout cas, mon histoire. Je suis né dans un foyer protestant, républicain et sociodémocrate sous une dictature d'un régime fasciste, avec une religion d'État qui était le catholicisme, et à ce moment-là, un catholicisme obscurantiste. Nous n'étions pas dans le bon camp dans ma famille. Mes parents, voulant me permettre de faire des études, ont eu le courage de tout abandonner pour immigrer en France. Aussi, je suis reconnaissant à la République française qui nous a accueillis et qui m'a permis de faire des études et de devenir professeur, cela sans s'inquiéter de mes origines, de ma religion ou de mes opinions politiques. La France est le pays qui m'a accueilli, qui a accueilli ma famille, et je suis heureux d'être français. On oublie aujourd'hui trop souvent que de nombreux protestants se sont battus et ont donné leur vie pour que nous bénéficions d'une république laïque. Aussi, la devise de mon pays, liberté, égalité, fraternité, a un sens fort pour moi. Pour moi, ces principes sont des valeurs chrétiennes qui découlent de l'œuvre du Christ dans une vie. J'ai essayé et j'essaye de les vivre dans mon métier. Ils définissent, je dirais, mon éthique du métier. Travaillant en collégialité dans des équipes pédagogiques, j'ai appris le métier de professeur grâce à mes collègues, à mes élèves et à des inspecteurs pédagogiques remarquables. En commençant à réfléchir au thème qui m'a été proposé, j'ai, selon mon habitude, mis sur papier quelques notes, et cela bien sûr, puisque je suis un botaniste, Jacques, moi aussi, sous forme de tableau. Je me suis d'abord demandé quelles sont les caractéristiques que je soulignerais pour être un scientifique et pour être un enseignant. J'ai été frappé par la similarité du contenu des deux colonnes qui rassemblaient les caractéristiques qui me venaient à l'esprit pour le scientifique et pour l'enseignant. Les termes au départ n'étaient pas identiques pour les deux colonnes. Mais en les regardant de plus près, ce qui m'a frappé, c'est leur proximité. J'ai donc essayé de la souligner en utilisant les mêmes termes par la suite. J'aurais pu, et je suis sûr que mes collègues le feront, trouver l'une ou l'autre caractéristique différente, mais l'important ici réside plutôt dans les ressemblances. Vivre les principes de la République comme être humain et comme enseignant n'est pas aisé. En ce qui me concerne, c'est ma foi qui m'y a conduit, ainsi que mon histoire personnelle. Mais je voudrais signaler que j'ai travaillé avec des collègues athées ou agnostiques qui partageaient la même vision du travail que moi. Première des devises, la liberté. En classe, on ne peut se vivre sans une loi commune, écrite et vécue. Or, sans des méthodes claires, sans de la rigueur, il n'y a pas de possibilité de la vivre. C'est aussi bien dans la prise de parole, dans les déplacements et dans le vécu des cours et tout particulièrement des travaux pratiques que cela s'applique. Cela se traduit par une explication claire des droits et des devoirs et par leur application sans exception de personne. Le respect de soi et des autres en est un des piliers. Et le deuxième, c'est un contrat de travail lu, expliqué, signé par l'élève et ses parents, et rappelé quand nécessaire. Ce contrat, bien sûr, s'appuie sur le règlement intérieur de l'établissement qui en demeure le cadre légal. Cette liberté ne signifie pas l'absence de lois, de règles de vie dans la classe. Elles sont souvent plus strictes, d'ailleurs, dans ma discipline que dans d'autres. Mais les élèves s'y plient volontiers quand l'enseignant se les applique aussi. Ainsi, en cas d'un manquement public, j'attends que l'élève s'excuse publiquement, sans fioriture, mais je m'applique aussi la même règle. Pour donner un exemple, ayant repris sévèrement une élève difficile devant toute la classe, à la sortie, le délégué de classe est venu me signaler qu'elle n'était pas responsable de la faute. Aussi, au cours suivant, j'ai présenté devant toute la classe mes excuses à cet élève. Cela a produit sur l'élève et sur la classe un grand impact. Bien entendu, si chaque semaine ou chaque mois vous devez demander pardon à vos élèves, il y a un problème. Mais si cela arrive une fois par an ou une fois tous les deux ans, c'est une façon importante, je dirais, de renforcer les règles de la classe et la communication est favorisée. On obtient ainsi le respect de la loi et une plus grande liberté. Je pense que c'est d'ailleurs une vérité biblique. On pourrait aussi utiliser cet exemple pour le deuxième principe, le second principe qui est l'égalité. Le professeur n'est pas exclu de l'obéissance à la loi. En outre, par la reconnaissance de sa faiblesse ou de ses erreurs, il redevient humain aux yeux de ses élèves, donc accessible. Ainsi, tout en visant, je dirais, l'excellence dans la matière, on reconnaît ses limites et on refuse quelque chose qui, moi, me paraît comme extrêmement présent et important comme formateur depuis des années de mes collègues, c'est la toute-puissance, qui est la tentation de cette toute-puissance qui est si présente dans mon métier. Certaines règles sont afférentes à ma discipline scientifique et à la rigueur qui lui est rattachée, en particulier dehors des travaux pratiques, avec les produits chimiques, avec les instruments de dissection et les risques liés à leur emploi, avec les règles d'hygiène, protection de la santé, nettoyage du matériel et de l'environnement, tri et collecte des déchets chimiques et biologiques. Les élèves savent au début de l'année qu'on est un professeur accessible et qu'ils peuvent venir parler de science ou d'autres choses avec nous. Ils savent aussi que je suis un professeur relais. C'est une fonction particulière dans l'éducation nationale où un professeur est formé pour être un relais entre les élèves qui sont passibles de la justice de notre pays et eux-mêmes. Ils ont la liberté de me contacter quand ils veulent au collège et chez moi. Au début de l'année, je leur donne mon adresse, mon numéro de téléphone et mon adresse mail. S'il y avait un parterre de professeurs du secondaire, ici j'aurais des remous. Cela est bien sûr un risque, mais bon, après 41 ans de métier, jusqu'à présent, grâce à Dieu, je n'en ai pas eu de conséquences négatives, ce qui prouve que Dieu est bon. L'égalité. Voilà un des principes sur lequel il faut beaucoup veiller, car les adolescents et les jeunes y sont très sensibles. Ils ont un sens aigu de la justice, tout au moins de celle qui leur est due. On ne doit pas faire de différence entre élèves dans la façon de communiquer, ce qui ne signifie pas qu'une évaluation qui ne prendrait pas en compte les cas. On peut ajouter des questions pour aller plus loin qui sont facultatives. Elles rapportent des points supplémentaires mais n'en enlèvent pas. Enseignant durant des années à l'UFM la docimologie, l'art de l'évaluation, je suis bien placé pour savoir les limites des notes. Mais faire progresser un élève, rechercher ses difficultés, ses blocages, l'aider en soulignant le positif, le progrès, les noter sur la copie, sur ses bulletins est important. Passer de 30 fautes d'orthographe par page à 15 équivaut toujours à un zéro. Pourtant, c'est un progrès extraordinaire qu'il faut savoir valoriser. Voir les élèves, les connaître, s'intéresser à eux, à leur réalité, à leur histoire, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils aiment est capital. Et car, comme en exégèse, les contextes sont primordiaux. J'ai eu un élève l'année dernière en échec depuis 4 ans, en refus de travail, en opposition avec les enseignants, avec envers eux de la violence verbale. Dans le rang, avant d'entrer en classe, alors qu'il me tournait volontairement le dos et qu'il parlait comme si je n'existais pas, j'ai entendu qu'il parlait de football. J'ai saisi la perche et je suis entré dans la conversation. À son grand étonnement, son professeur devenait humain. Il connaissait le football et pouvait et voulait en parler, bien qu'il ne partageait pas ses favoris. À partir de ce jour, cet élève m'a demandé chaque semaine si j'avais vu le match, ce que j'en pensais. Il ne m'a plus jamais affronté en classe et m'a même rendu enfin des copies, la plupart du temps vides, mais au moins présentes. Il lui est même arrivé de me répondre à l'oral. Ses résultats scolaires n'ont pas changé, mais son attitude, oui. J'avais trouvé hors scolarité un point d'accrochage. Je m'étais intéressé à ce qu'il aimait et j'en parlais avec lui. Dans ce cadre, il n'était plus nul, mais pouvait se positionner vis-à-vis de moi autrement que par la violence. Aussi, j'ai noté son comportement positif en conseil de classe et dans son bulletin trimestriel. Bien sûr, cela demande une réalité et pas de l'artificialité. Il se trouve que j'aime vraiment le football. J'ai des élèves qui sont skieurs ou nageurs, et là, je cherche d'autres amorces car je ne connais pas ces disciplines et elles ne m'intéressent pas. Il est rare qu'on ne puisse pas en trouver. Et même dans ce cas, reconnaissant son ignorance, on peut questionner, s'intéresser et surtout écouter et retenir. Car il faudra prouver lors du prochain contact qu'on a réellement écouté la première fois et qu'on s'est intéressé puisqu'on a retenu. Il y a beaucoup de souffrance parmi les adolescents, beaucoup de manques, beaucoup d'addictions et déjà beaucoup de blessures fraîches, peu ou pas cicatrisées. Or, nous, chrétiens, nous savons que si les cicatrices nous rappellent d'où on vient, elles n'ont pas à nous dire où nous devons aller. Et cela, les chrétiens le savent bien, car ils l'ont vécu et le vivent en Christ. Cet élève amateur de football avait des raisons d'être violent. Son père avait été enfermé durant des années en prison. Il ne lui écrivait jamais. Et quand il est sorti, il n'est pas venu le voir. Rejeté par la figure d'autorité par excellence, vous pouvez comprendre son opposition aux professeurs, tout particulièrement les professeurs masculins, qui en plus ayant des classes surchargées, ne voyaient en lui qu'un élève très difficile, troublant leur classe, leur cours et leur autorité. C'est aussi ma première réaction quand il a brisé pour la première fois l'admirable cours que j'avais peaufiné longuement tard la veille. J'ai dû prendre du recul, me souvenir que ce n'était peut-être pas moi qui étais en cause. Vous découvrez que je suis humain. Oui, et quand on me marche sur les pieds, eh bien, je crie ma douleur, et ça, c'est dans les meilleurs cas. Parce qu'il y a des cas autres. Du coup, je suis allé à la pêche aux informations. De nombreuses sources existent dans notre métier, toutes très chronophages. Je pense que c'est mon travail de professeur relais qui m'y pousse. Et cette fonction, c'est en ce qui me concerne mon éthique chrétienne qui m'y a poussé. Dans la classe, on circule. On est sensible à la façon dont les élèves s'habillent, se maquillent. Je remarque une manche qui est baissée pour mieux cacher un bandage autour d'un poignet. Je vois des yeux ensommeillés, des pupilles dilatées, pâleur ou rougeur, odeur qui les accompagne. Il faut s'intéresser à eux, essayer de les voir en dehors du cours, avant ou après, dans un couloir, durant une heure de creux commune. Comme professeur principal ou de soutien, je les rencontre. Je vis dans une petite ville de banlieue où j'exerce aussi les rencontres dans la rue, dans les fêtes, dans la vie associative et courante. Je ne force pas l'entretien ou la confidence. Je tends des perches. S'ils ne veulent pas les saisir, je respecte leur décision. Mais si l'élève me semble en danger, je fais part de mes craintes au conseiller pédagogique éducatif ou à l'infirmière qui ont d'autres possibilités ou parfois un meilleur contact. Tout cela a un coût important en temps, mais c'est le prix à payer pour être un professeur de proximité. Il faut aussi, ce qui est plus difficile parfois, prendre des précautions au niveau du contact, des entretiens. Mes élèves sont mineurs pour la majorité de mes classes. Il faut prendre des précautions à mon niveau, au point de vue du transfert, de l'impact émotionnel de certaines détresses dites ou entrevues. Il faut trouver des vis-à-vis pour se décharger. Il faut aussi, vis-à-vis de l'élève, pouvoir revenir ensuite dans la fonction première de professeur. Il faut protéger les siens de l'impact. Protéger les siens de l'impact que tout cela a en nous, que cela suscite, et qu'on retransmet sans le dire et sans toujours le réaliser aux siens. Je vois et je reçois du courrier d'élèves et de certains de leurs parents que j'ai eus il y a plus de 30 ans. Notons que là, ils savent clairement mes choix spirituels et que je peux aborder clairement le sujet de la foi quand ils ne sont plus scolarisés. Cependant, j'ai un privilège sur beaucoup d'entre vous. Je vis en Alsace. Et c'est une région qui est toujours concordataire. J'ai pu distribuer pour les cours de religion qui existent dans mon établissement des Nouveaux Testaments, mettre des Bibles au CDI, intervenir dans ces cours de religion. Au rectorat, on me sollicite pour des questions sur le fait religieux, pour des tables rondes organisées sur cette thématique. Et j'organise ainsi plusieurs stages régionaux avec des rapports religion, société, économie, architecture. Quand vous êtes à Sainte-Marie-aux-Mines et que vous visitez l'un des deux seuls temples réformés d'origine encore debout, il y a une Bible ouverte au milieu de ce temple, près de l'autel. L'utilisation de l'espace centré sur la parole, les questions fusent tout à fait simplement. À Saverne, au cloître des Récollets, devant les fresques franciscaines de la contre-réforme, montrant une allégorie d'Éphésiens 6, versets 13 à 17 sur les armes de la foi, eh bien, les questions fusent. Lors d'une rencontre générale du personnel du rectorat, le recteur a souligné publiquement comme un atout mes études de théologie. Et oui, ça arrive même au milieu laïque. Ainsi, en début d'année, le responsable rectoral de la formation des professeurs de religion m'a sollicité pour intervenir comme théologienne dans la formation qu'il organise annuellement pour eux. Malgré tout cela, il faut savoir que même en Alsace, être chrétien évangélique dans la société, dans le monde enseignant, n'est pas simple et facile, en particulier comme professeur d'une discipline scientifique. Mais c'est facilité par le sérieux et la rigueur du travail. Si on donne des garanties en tant que scientifique et qu'enseignant, alors on accepte plus facilement ce qu'on peut prendre comme saugrenu ou curieux, à savoir notre foi. J'ai d'abord été formateur en didactique des sciences de la vie et de la terre de mes collègues durant de nombreuses années. Et puis on m'a appelé pour être chargé de mission auprès du recteur. Puis, ayant confiance, on a commencé à me confier des tâches faisant appel à la religion. On connaît ma foi, mais aussi mon éthique du métier. Je suis un fonctionnaire, moi aussi, d'un établissement public, et donc respectant la laïcité. Je ne mélange pas les genres. Je m'efforce à y être très rigoureux. Je ne laisse pas des traités ou des invitations à des réunions d'église traîner sur mon bureau. Je n'en mets pas dans les casiers de mes collègues. Mais certains savent qu'il y a un Nouveau Testament dans mon casier, que je ne lis pas durant les heures de bureau. J'ai des photocopies pour mes articles. Je fais des photocopies ou pour mes messages au collège. Mais en début d'année, j'achète avec l'accord de mon chef d'établissement un millier de photocopies et je dispose d'un code d'accès privé pour elles, alors que des collègues font des photocopies privées aux frais du collège. Je pourrais faire de même, car il m'arrive régulièrement de faire des photocopies pour mes classes, et cela à mes frais. Mais je préfère être rigoureux, car c'est un témoignage, et on connaît mes convictions religieuses. Aussi, je ne veux pas qu'on puisse critiquer à cause de moi ma foi ou le Christ. Le fait d'être reconnu dans son métier et de s'appliquer avec rigueur à suivre l'avancée de sa discipline fait que notre foi devient un sujet d'interrogation, voire d'interpellation. Cependant, en classe, en salle des professeurs, en cours, en formation, en stage, au rectorat, je ne parle pas de foi, mais de vie, de métier, de didactique, d'élèves Et alors, on se demande comment un universitaire, un enseignant, un scientifique laïque peut être chrétien. Et quand on vous pose des questions, alors parfois on écoute plus facilement une réponse ou un témoignage court, plutôt que quand vous l'imposez, alors qu'on ne vous a rien demandé. Il faut éviter les longues réponses apologétiques dans le cadre du travail. Il y a d'autres occasions externes suscitées par des personnes vraiment intéressées. Le dernier principe est la fraternité. Dans mes classes, cela s'appelle la solidarité. Les uns avec les autres, dans la classe, avec ceux qui sont en difficulté, handicap, difficulté de vie, difficulté scolaire. Cela se traduit par le respect, l'écoute, le soutien, l'acceptation des différences et d'un traitement individuel. Si la loi est la même pour tous, on se doit de trouver des méthodes qui tiennent compte des réalités et des possibilités. La compréhension que la notation scolaire n'est pas une classification à vie dans des catégories qui définiraient l'identité de l'être et le relationnel possible. Le travail d'Adam a d'abord été de s'occuper des plantes d'un jardin. Et le botaniste, membre de la Société botanique d'Alsace, y trouve son compte. Puis de classer en identifiant tous les animaux. Donc grâce à lui, je me sens très humain. Cependant, dans mon herbier ou dans celui de Strasbourg, je colle des étiquettes donnant l'identité avec une colle extra forte. Dans la vie de professeur et dans la vie en général, il faut éviter de coller aux gens des étiquettes avec de la colle extra forte. Dieu ne nous a pas collés. J'enseigne en cours de biologie et de génétique à veiller avec soin sur le fait que nous soyons tous semblables et tous différents. Aussi, de très mauvais élèves scolairement ont d'excellents rapports avec moi, car je continue à leur donner des notes peu reluisantes, mais je les traite en être humain, à part entière, qui a le droit d'être écouté. Je ne leur colle pas une étiquette, le moins possible. Ils sont uniques. J'ai aussi, pour les mêmes raisons, au travers du temps, des contacts avec mes collègues, au moment de maladie, de deuil, et j'en viens à ma conclusion, puisque Lydia est là déjà. Tout ceci est évidemment un engagement de vie et de toute une vie avec des hauts et des bas, avec des échecs, des erreurs et des chutes, mais aussi avec la conviction qu'il faut essayer d'être vrai, de donner soi-même l'exemple et de lutter dans sa vie contre le désir de puissance. Je suis conscient que j'ai surtout parlé de didactique. J'ai plus développé le fait d'être chrétien en tant qu'enseignant et en effet, beaucoup de choses dites peuvent être vécues par des professeurs non scientifiques. Cependant, l'aspect scientifique qui paraît second est bien présent à cause de la rigueur. J'ai évité de ne pas alourdir, pour ne pas alourdir de faire des citations bibliques, mais vous pourrez faire les rapports. Mes choix d'action, ces rapports avec la foi que je ne exprime pas, dont je n'ai pas toujours conscience, mais elles reposent sur des principes décrits qui eux-mêmes sont conséquences de ma foi. Un dernier rappel, quoique vivant et exerçant en Alsace, je suis dans un système laïque auquel mon histoire, mon éducation et ma culture m'ont fait pleinement adhérer. Mais si je ne peux parler de ma foi, personne, hormis moi-même, ne peut m'empêcher d'essayer de la vivre pratiquement tous les jours. Cela ne se veut qu'un fragile témoignage. À Dieu soit seul la gloire.